Aujourd'hui, à rencontre, Jacques Ellul. Professeur d'histoire sociale à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, Jacques Ellul appartient au Conseil national de l'Église réformée de France. Historien, exégète et théologien, Jacques Ellul, dont l'œuvre est considérable, est reconnu comme un moraliste particulièrement attentif à l'évolution de notre époque.
Jacques Ellul, nos contemporains cherchent de plus en plus le confort. Il y a vraiment une poursuite du confort dans la société actuelle. Par ailleurs, presque chaque homme que nous rencontrons nous dit être mal à l'aise dans ce qu'on appelle maintenant le système. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Bon, je crois que la recherche du confort, c'est essentiellement une compensation pour un grand manque et combler un grand vide que l'homme moderne ressent et qui s'est exprimé par exemple en France en 68 lorsque les étudiants ont proclamé leur absence de sens de la vie d'une société comme la nôtre. Alors, faute de sens de la vie, on cherche ce qui peut remplacer, être dans le quotidien un petit élément qui permet de passer jour après jour. Mais je crois que précisément, sitôt que l'homme moderne du monde occidental pose une question ou réfléchit à ce qu'il vit, il se rend compte très vite de la difficulté qu'il a à vivre dans ce que l'on appelle, si vous voulez, le système.
Oui, mais alors comment se fait-il justement qu'il y ait ce vide ? Enfin, est-ce que c'est nous qui avons vidé quelque chose ? Ou bien si au contraire, dans un monde qu'on essaie de faire de plus en plus plein, de plus en plus compact, de plus en plus solide, il y a quelque chose qui finalement échappe malgré tout à l'homme ?
Oui, je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles qui se sont progressivement rompues au XIXe siècle, il y avait la société donnée une certaine valeur, un certain ensemble de valeurs, grâce à quoi l'homme vivait plus ou moins tranquille, avec parfois la volonté de tout changer, mais enfin, il trouvait un certain nombre de références. Bon, l'expérience que nous vivons maintenant avec ce que l'on appelle la société technicienne, avec la transformation de tout l'ensemble de nos modes de pensée, de connaissance, la destruction de la morale, etc. Tout ça fait que nous vivons une expérience que l'homme n'a jamais vécue encore, à savoir que la société ne lui fournit plus aucune valeur, qu'il n'y a plus aucune référence pour la vie personnelle de l'homme et que, à la limite, il faudrait qu'il trouve tout en lui-même. Or, il mène une vie qui est une vie extraordinairement prenante, extraordinairement accaparée, où il a plus de travail et plus de préoccupations que jamais, ce qui fait qu'il n'a exactement jamais le temps de méditer en quelque sorte à un niveau tel qu'il trouverait lui-même seul ses valeurs et ses points de référence. Et il faut bien dire que par exemple les églises ont complètement abandonné, prises dans le courant général de la société, ont complètement abandonné leur ancien rôle. Si elles veulent garder le rôle qu'elles avaient autrefois, bon, elles sont totalement dévaluées, elles paraissent médiévales et elles n'ont pas trouvé quelque chose de neuf qui permettrait à l'homme d'avoir une réponse.
Bon, vous venez de dire des choses extrêmement importantes et très complexes. Si vous voulez, nous pourrions peut-être essayer de décortiquer tout ce discours. D'abord, vous avez parlé de société technicienne. Qu'est-ce que vous entendez par société technicienne ?
Eh bien, la société technicienne, c'est une société essentiellement le monde occidental, mais qui gagne progressivement le reste du monde. C'est essentiellement une société dans laquelle la technique détermine tout et une société qui est construite en vue la production de techniques ou d'objets techniques. La technique n'étant pas à confondre avec la machine, la technique étant, comme j'ai essayé de l'analyser, l'ensemble des moyens constamment les plus efficaces. ce qui a été au fond la grande mutation, c'est que alors que l'homme traditionnel ne s'inquiétait pas beaucoup de l'efficacité de ce qu'il faisait, depuis 200 ans, on recherche avant tout l'efficacité et le développement des moyens. Les fins se sont complètement effacées en face de la prolifération des moyens.
Mais est-ce que cette recherche d'efficacité ne libère pas l'homme précisément pour atteindre les moyens, les fins?
Alors ça pouvait être l'illusion que l'on avait au début, mais l'expérience a prouvé deux choses, c'est que plus la technique se développe, plus la vie se complique. On a affaire constamment à de nouvelles adaptations, on a à trouver constamment de nouveaux moyens pour dominer des moyens, etc., d'une part, et d'autre part, vivant dans un univers qui est essentiellement un univers de moyens, l'homme finalement a complètement perdu de vue la possibilité d'assigner des fins. Et quand il cherche à des fins, eh bien, on découvre que ces fins sont en réalité ou très très anciennes et sont inadaptées aux moyens que nous avons, ou bien sont parfaitement aléatoires.
Oui, mais la recherche des fins, au fond, c'est l'affaire des philosophes, et la philosophie, c'est quand même un certain luxe, n'est-ce pas ? C'est pas le...
Oui, je ne dirais pas que la recherche des fins, c'est l'affaire des philosophes, parce que au fond, quand on voit historiquement le rôle des philosophes, ils ont toujours été marginaux. C'est toute une société entière qui se donne un certain nombre de fins. Alors évidemment, le discours des philosophes, enfin Hegel a raison quand il dit bon, la philosophie vient comme la chouette au moment du crépuscule quand l'histoire est finie. Le philosophe, il vient toujours après pour récolter ce qu'une société avait créé. Mais actuellement, nos philosophes ne paraissent guère capables même de récolter, parce que ce que nous faisons est trop complexe dans le domaine des techniques pour que le philosophe puisse y interférer.
Mais c'est une société, vous dites, qui se donne des fins, ce n'est pas l'individu.
Je crois que lorsque l'individu se donne des fins, c'est toujours par rapport à ce que le monde dans lequel il s'est trouvé a lui-même inventé. Ce n'est jamais l'individu seul, c'est toujours l'individu en relation et par rapport à d'autres.
Et dans la société actuelle, qu'est-ce qui empêche précisément, puisque enfin l'efficacité nous libère, nous donne du temps, nous permet des tâches, nous permet précisément peut-être une réflexion, une information plus grande. Qu'est-ce qui empêche dans la société actuelle que cette société se donne des fins?
Mais essentiellement, je crois, c'est le fait de l'extrême complexité. Plus les techniques se développent, plus le monde dans lequel nous sommes devient un monde complexe. Vous venez de parler de l'information. Le problème, ce n'est pas de ne pas avoir d'information, c'est d'en avoir trop. Enfin, comment voulez-vous que l'on réfléchisse quand tous les jours vous recevez 2 ou 3 000 informations? Ce n'est absolument pas possible.
Mais je peux faire un choix, je ne suis pas obligé de lire tous les journaux,
Il faut que vous commenciez par faire un choix, ce qui implique déjà une lucidité, ce qui implique déjà une maîtrise intellectuelle que l'homme en général n'est pas capable d'avoir. Au fond, l'information, le flot d'informations que nous recevons, si on a un cerveau suffisamment puissant pour les enregistrer, pour faire l'analyse, alors effectivement ça devient utilisable, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des hommes qui composent notre société.
Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une espèce, je dirais, d'immunisation naturelle, n'est-ce pas? Précisément parce qu'il y a tellement d'informations, finalement on n'écoute plus rien.
Bon, mais à ce moment-là, on est dans une espèce de vague, de brouillard. Et ça, c'est bien effectivement la situation de l'homme que je rencontre le plus souvent. C'est un espèce de brouillard duquel émergent quelques informations qui viennent au hasard. Ce sont des bruits, alors que l'on prend pour des informations. Il n'y a pas tellement longtemps, courait le bruit partout qu'on était à la veille de la Troisième Guerre mondiale. C'était fait. Bon, eh bien, j'ai rencontré beaucoup de monde qui était convaincu que c'était de l'ordre de l'information, parce que ça émergeait d'une brume de faits indistincts, mal connus, mal compris. C'est ça notre condition humaine actuelle. C'est ça qui fait qu'il est tellement difficile à la fois de réfléchir sur notre vie, de réfléchir sur la société dans laquelle nous sommes, et encore plus difficile de découvrir l'orientation qu'elle devrait avoir.
Mais est-ce que la réflexion n'a-t-elle pas été toujours le fait de quelques individus, n'est-ce pas, de quelques individus finalement très privilégiés et qui éclairaient les autres?
Oui, et l'extrême difficulté, c'est qu'il y avait toujours, disons, un fond commun, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, entre ces individus qui réfléchissaient en avant, en somme, et puis l'ensemble des hommes qui composaient ce corps social. Or, maintenant, il y a un fossé qui est de plus en plus grand. Et je pense que celui qui réfléchit, celui, disons, l'intellectuel qui absorbe les informations, qui les assimile, qui, au fond, fait son travail vrai d'intellectuel, se trouve de plus en plus séparé d'une masse de gens qui se bornent à exercer leur métier. Ou alors qui se révoltent comme les jeunes en disant « ce n'est pas possible, il faut rejeter le système, il faut tout casser ». Mais tout casser, c'est pas une réponse.
Vous avez vous-même réfléchi beaucoup sur ce problème de la révolte et de la révolution. Vous pensez même que finalement la révolte est pratiquement inutile.
La révolte est inutile, mais déjà dire inutile, c'est rentrer dans les critères d'efficacité. Elle est inutile et en même temps elle est inévitable. Vivre dans un monde comme celui que nous connaissons implique, pour celui qui n'est pas déjà complètement englobé dans ce monde, implique des réactions de révolte. Quand on parle des jeunes qui refusent d'entrer dans un métier, qui refusent d'accepter telle ou telle servitude, etc., ils ont essentiellement peur d'entrer dans un organisme ou dans une machine qui va entièrement les broyer, les absorber, les conformiser, etc. Ils ont peur d'avance. Alors, ils ont le sentiment instinctif de révolte. Ça peut déboucher sur rien. Sur rien. Mais c'est inévitable.
C'est inévitable. C'est inévitable parce que la société, précisément, est bloquée, n'est-ce pas? Elle est bloquée de toutes parts.
Oui, c'est en même temps... c'est ce qui est étonnant comme phénomène, c'est une société qui est bloquée et c'est en même temps une société qui va très vite. Enfin, on a l'apparence, n'est-ce pas, de changement, on a le terme consacré, n'est-ce pas, d'une société en mutation rapide, mais c'est une mutation, si vous voulez, comme un chemin de fer, qui est sur des rails, il peut aller très vite, il ne quittera pas les rails.
De sorte que finalement, l'homme est toujours nouveau en face d'un décor qui est toujours qui lui reste le même.
Oui, mais l'homme est nouveau, je dirais, dans sa volonté de liberté, parce que ça subsiste, je crois, fondamentalement. L'homme ne peut pas accepter d'être totalement déterminé. Je pense à bien des amis marxistes qui croient fermement à la détermination par les conditions sociales, etc., et quand on leur dit « mais la logique d'une telle opinion, c'est finalement supprimer le jeu. Si on est totalement déterminé, je ne peux plus dire jeu. Si ce n'est pas moi qui parle, mais si c'est un on qui parle, si c'est un discours social que j'émets, je n'ai plus le droit de dire je. »
Comme disent les psychanalystes, ça parle.
Ça parle. Bon, eh bien, aucun marxiste n'acceptera de supprimer le je. Marx lui-même n'arrêtait pas de dire je, tout en étant convaincu de cette détermination. Alors ça veut vraiment dire, je crois, que l'homme ne peut pas renoncer à une certaine volonté de liberté. Et sa révolte vient d'un monde qui, en apparence, grâce aux moyens, lui donnerait beaucoup de facilité, et en réalité le contraint dans des disciplines de plus en plus étroites.
Vous venez de dire une chose extrêmement importante, pour notre auditoire, vous venez de dire l'importance de dire « je ». Or, il y a un slogan en Amérique, je ne sais pas comment vous allez réagir à ce slogan, mais je vous le donne. « Sois toi-même dans le monde d'aujourd'hui ». Dans quelle mesure ce slogan rejoint-il cette affirmation d'une affirmation d'un « je » ?
Oui, alors là, je crois que je serais assez méchant parce que on a émis des slogans de ce genre dans de très très grandes entreprises s'adressant à leur personnel et aux 2 ou 3 000 employés ou ouvriers qui entraient, on leur disait il faut d'abord être soi-même. Alors ça, je crois que ça me paraît être une hypocrisie extraordinaire parce que le monde d'aujourd'hui fait tout pour que nous ne soyons pas nous-mêmes. Et si l'ouvrier à qui on recommandait d'être lui-même avait dans l'entreprise pris des initiatives qui ne conviennent pas, je pense que ça n'aurait pas du tout marché. Et alors, ça fait partie, disons, des relations publiques et des relations humaines, mais c'est de l'ordre d'une technique encore, de recommander aux gens d'être eux-mêmes. Qu'un professeur dise à ses étudiants qu'ils doivent être eux-mêmes, très bien, à l'intérieur d'une certaine discipline, d'un consensus commun, etc., etc.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il faut s'affirmer comme je ?
Alors, non, je disais simplement que l'homme est habité par une espèce de passion pour la liberté à laquelle, même quand il ne le sait pas, quand il ne le formule pas philosophiquement, à laquelle il ne peut pas arriver à renoncer. Il a le sentiment qu'on empiète sur un domaine que l'on n'a pas le droit de toucher quand finalement on le conditionne. Apprendre aux gens par exemple la puissance de la propagande, on a tout de suite des réactions extraordinaires. Ce n'est pas vrai, enfin je n'obéis pas à la publicité, je n'obéis pas à la propagande, ce n'est pas possible. Voilà.
Car c'est impossible, à votre avis, dans la société telle qu'elle est, de ne pas être conditionné par les propagandes.
On est extraordinairement conditionné, mais il reste pour moi cette espèce de petit hiatus, de petite distance entre la réaction fondamentale de l'homme et puis la masse de puissance conditionnante et de moyens techniques qui n'arrive pas à complètement éliminé. Pour moi, ce qui est bouleversant, si vous voulez, c'est par exemple la découverte de l'indépendance des intellectuels soviétiques. J'étais beaucoup plus pessimiste il y a 10 ou 15 ans que je ne le suis maintenant, parce que j'étais absolument convaincu que le système soviétique, avec la mise au point extraordinaire de ses différentes techniques de manipulation psychologique, était arrivé à éliminer complètement l'opposition intellectuelle. Les intellectuels étaient tous communistes, ils étaient tous dans la ligne du parti, etc. etc. Voir ce que nous voyons depuis 15 ans, moi je trouve ça éblouissant. Apprendre par exemple, alors plus anciennement, qu'un homme comme Bulgakov continuait à écrire alors qu'il n'avait aucun espoir d'être publié et qu'il est mort sans avoir vu un de ses livres publiés, et continuant au milieu de cette pression d'une société aussi totalitaire à être convaincu que la liberté finirait par gagner. J'étais très pessimiste parce que je ne pensais pas que l'homme pourrait résister à des pressions de ce genre. Il résiste.
Mais comment peut-il résister, justement ? À quelles conditions ?
Alors, ce que je vais dire est forcément partiel, hein, et dépend de ma prise personnelle de position. Je constate que la plupart des intellectuels soviétiques qui ont le plus résisté et qui ont en définitive marqué leur indépendance se sont aussi convertis au christianisme. Pas tous, mais la plupart. Et c'est un christianisme qu'ils n'avaient pas héréditairement. C'est un christianisme qu'ils ont redécouvert. Ils ne sont pas entrés pour ça dans l'Église orthodoxe officielle, n'est-ce pas ? Alors, moi, je pense que le christianisme, dans son authenticité, est encore la force la plus indépendante et qui permet à l'homme de retrouver à la fois la signification de sa liberté fondamentale qu'il réclame et la possibilité de dire je.
Et pourtant, tout à l'heure, vous reprochiez aux églises de ne plus être capable de présenter aux hommes d'aujourd'hui un message concernant les femmes.
Manifestement, je crois alors que toutes les églises, et j'appartiens à l'église réformée, c'est exactement la même chose que les autres, toutes les églises sont complètement déphasées. Et ce n'est pas au niveau des églises et par l'intermédiaire des églises que le christianisme retrouve une vitalité et une sève. Je ne veux pas dire du tout que lorsque l'on est chrétien, il faut quitter les églises. Si on peut y vivre dedans, c'est très bien. Si on peut en tirer quelque chose, c'est aussi très bien, mais ce n'est pas la structure des églises, les hiérarchies, les autorités, etc., qui peuvent avoir je dirais, l'initiative, l'indépendance et l'expérience aussi du monde concret, ce n'est pas elles qui peuvent redécouvrir ce qu'il est nécessaire de dire à l'homme moderne.
Et c'est donc dire que, au fond, vous ne croyez pas tellement ces efforts de renouveau, comme on l'a dit, d'aggiornamento qu'on a tenté.
Vous savez, en étant méchant, je dirais que l'aggiornamento, ça veut dire deux choses. C'est la mise à jour, mais c'est l'ajournement. C'est-à-dire que on renvoie les questions aussi à les questions fondamentales à un peu plus tard. Alors, non, je ne pense pas à un aggiornamento possible de la part d'autorités et de corps institués. Voilà. Ce que nous voyons où le christianisme renaît, c'est essentiellement dans les fameux groupuscules, enfin les petits groupes informels, des gens qui ne sont pas des chrétiens d'origine et qui découvrent une parole évangélique qui leur parle. Alors c'est très très dangereux parce qu'ils vont dire toutes les bêtises possibles, ils vont reproduire toutes les hérésies que l'on a connues au cours de l'Église. Mais heureusement, il faut bien qu'il y ait des hérétiques, c'est eux qui font vivre l'Église.
Oui, mais alors, est-ce que c'est dire que l'historien des institutions que vous êtes croit que finalement c'en est fini de ces institutions extrêmement compliquées, très, très énormes qu'on a pu connaître?
De toute façon, les institutions renaissent toujours. Ça, il ne faut pas, hélas, avoir beaucoup d'illusions. Quand on croit qu'on a fini avec une institution, par une révolution par exemple, ça reparaît instantanément. Et on refait aussitôt une autre institution. Alors, les groupes informels et les groupes dissidents, etc., ils vont se recréer dans les 10 ans qui viennent ou les 20 ans qui viennent d'autres institutions. Les institutions actuelles de l'Église, il n'y a qu'à voir leurs difficultés de fonctionnement et d'adaptation pour se rendre compte qu'elles vont être obligées de procéder à un retournement à peu près complet, ce qui n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que l'Église catholique a procédé à des retournements complets dans ses institutions.
Mais ces retournements sont possibles que par ce qu'on appelait les saints.
Oui.
Et par une certaine forme de sainteté, oui, très, très, très présente, très immédiate, très actuelle, n'est-ce, oui, pas? Je pense par exemple à celle de François d'Assise au XIIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous alors être chrétien? Parce qu'au fond, être chrétien, être un saint, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien aujourd'hui?
La question que vous me posez est embarrassante. Si j'aurais envie de répondre sans répondre, comme Kierkegaard, disant que si on lui demandait le couteau sous la gorge s'il était chrétien, il serait obligé de répondre que non, car ça a une telle importance, un tel poids et une telle profondeur, c'est-à-dire que si on n'accède pas à la foi d'Abraham, ce n'est pas encore la foi. Et par conséquent, la première affirmation de quelqu'un qui essaie d'être chrétien, c'est de reconnaître qu'il ne l'est pas. La parole la plus centrale, à mon avis, de l'Évangile, dite par un homme, c'est quand même celle qui dit « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Ben, c'est tout ce que nous pouvons reconnaître. C'est parce que je crois que finalement, je suis obligé d'appeler la grâce du Seigneur dans mon incrédulité. Alors, être chrétien, à partir de cette reconnaissance de l'incrédulité, c'est une réduction de tous les moyens, c'est une immédiateté de la présence à l'autre, et en même temps, c'est une affirmation absolument intransigeante de ce qui est contenu, me semble-t-il, dans la révélation, dans l'Évangile. Il n'y a pas besoin d'être un grand docteur ou un théologien pour le savoir. C'est un donné immédiat.
Mais qu'est-ce qui permet justement à ce christianisme tout à coup d'être, je pense que je vais employer un mot que vous n'aimez pas, d'être révolutionnaire?
Le christianisme est révolutionnaire parce que, quelle que soit la réalisation à laquelle on arrive, chaque fois, l'espérance chrétienne vous dit immédiatement « Non, ce n'est pas encore ça. » Autrement dit, il faut recommencer. Et par conséquent, tout à l'heure, vous me posiez la question de la sainteté. De toute façon, le saint, c'est celui qui reconnaît qu'il ne l'est pas, de toute façon. Et c'est celui qui, ayant accompli quelque chose, le met instantanément de côté en disant « Bon, de toute façon, il faut commencer autre chose à partir de là. » ça ne peut être jamais qu'un point de départ et un recommencement. Alors évidemment, mais c'est une révolution permanente qui est exigée. C'est jamais l'installation à un moment donné disant enfin nous avons réussi une bonne église, un bon état, etc. C'est exactement le contraire.
Le chrétien c'est un marginal.
Le chrétien est à la fois un marginal et je pense c'est celui qui occupe la place centrale dans la société. Car c'est celui de qui peut venir une parole qui pour les autres hommes aura un sens.
Mais quel sens peut-on donner justement à l'existence de nos contemporains ?
Alors, étant donné que je constate le désespoir à peu près constant et la tendance au suicide qui est tragique chez les jeunes, la première parole à dire, c'est la parole de l'espérance, c'est-à-dire que le prochain pas est encore possible. Quelles que soient les fermetures, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, il y a toujours encore un pas possible.
L'espérance contre tout espoir.
L'espérance contre tout espoir. Et d'ailleurs, l'espérance n'a de sens que lorsque, à vue humaine, il n'y a pas d'espoir. Sans ça, c'est pas la peine de parler de l'espérance qui vient de Dieu. Il n'y a qu'à faire confiance au fonctionnement des institutions. L'espoir, c'est quand, au fond, l'expérience physique, ça va réussir.
Car l'espérance n'est donc pas le mouvement d'un bon caractère, d'un caractère optimiste.
Absolument. L'espérance, c'est sûrement une forme, sûrement l'expression d'un pessimisme, mais d'un pessimisme qui ne renonce jamais.
Et qui ne renonce pas au nom de Dieu.
Sans ça, il est bien évident, ce n'est pas au fond de soi-même que l'on trouvera une substance suffisante pour recommencer indéfiniment.
Et pourtant, vous-même, vous dites que Dieu se tait.
Dieu se tait. C'est précisément pour ça qu'il faut répondre par l'espérance. Quand Dieu se tait, c'est l'homme qui doit parler au nom de Dieu. Ça, c'est la leçon de tous les prophètes. Les prophètes, ils ne savent pas toujours d'avance ce que... Ils ne parlent pas sous la dictée d'un Dieu, hein, les prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes qui avancent en disant, voilà ce que Dieu dit.
Mais et alors, Dieu ne se tait-il pas aussi pour les prophètes?
Souvent, il s'est tu pour les prophètes. Mais le miracle, c'est que Dieu, après, disait, oui, celui-là, c'était le prophète.
Dieu se tait-il pour vous ?
Dieu a parlé pour moi, et c'est évidemment à partir de là que je peux parler. Je n'ai pas une écoute permanente de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu devient vivante, pour moi, ça m'apparaît toujours comme un miracle, et un miracle absolument inattendu.
Jacques Ellul, je vous remercie.
Les téléspectateurs pourront se familiariser avec la pensée de Jacques Ellul en lisant « La trahison de l'Occident » publié chez Calmant-Lévy.